C'était l'heure de la séance de thérapie de groupe. Il serait là dans 10 minutes. Les 6 habitués et la nouvelle, Eva Blot. En enfilant ma blouse de médecin, je ressentais toujours une sensation de vertige et d'excitation. C'était comme si je montais sur une scène, que j'entrais dans la lumière des projecteurs. Ce sentiment n'avait rien à voir avec de la vanité, mais plutôt avec le plaisir de pouvoir transmettre la quintessence de mon expertise. Je pris mon carnet et parcourus les notes relatives à la séance précédente, une semaine plus tôt, quand Marek Semiovic avait parlé de la grande maison en bois dans la campagne du canton de Zenica Doboj. J'avais enfin réussi à plonger Marek Semiovic dans une hypnose plus profonde. Il avait décrit d'une voix calme et neutre une pièce dans la cave avec un sol en ciment, où il avait été contraint d'administrer des décharges électriques à des amis et à des membres éloignés de sa famille. Mais brusquement, il s'était détourné, avait changé de scénario, ignoré mes instructions et cherché à sortir de l'hypnose de son propre chef. Je savais qu'il fallait avancer à pas compter. C'est la raison pour laquelle j'avais décidé de laisser Marek en paix aujourd'hui. Ce serait à Charlotte de commencer, et ensuite, je ferai peut-être une première tentative avec la nouvelle, Eva Blot. La salle utilisée pour les séances d'hypnose était censée procurer une impression neutre apaisante. Des rideaux d'un jaune indécis, un sol gris, des meubles simples mais confortables, une table et des chaises en bouleau, du bois décoloré par le soleil et parsemé de taches brunes. Un protège-chaussette bleu traînait sous une chaise. Les murs étaient nus, à l'exception de quelques lithographies aux couleurs sobres. J'installai les chaises en demi-cercle et plaçai le trépied de la caméra aussi loin que possible. Mes recherches me passionnaient. J'étais très curieux de savoir ce qui allait émerger, et j'étais aussi de plus en plus convaincu que cette forme de thérapie était meilleure que celle que j'avais exercée jusqu'alors. L'importance du collectif était déterminante dans le traitement du traumatisme. L'isolement de la solitude se muait en un processus de guérison partagée. J'installai la caméra sur le trépied, branchai le câble, introduisis une nouvelle cassette, ajustai la lumière, zoomai sur le dossier d'une chaise, réglai la mise au point, puis dézoomai. Pendant ce temps, l'un de mes patients était entré dans la pièce. C'était Sibelle. Je supposais qu'elle attendait devant l'hôpital l'ouverture de la salle et le début de la séance depuis quelques heures déjà. Elle s'installa sur une des chaises et se mit à produire d'étranges sons avec sa gorge, des bruits de déglutition, des gloussements. Avec un sourire mécontent, elle rajusta la grande perruque à boucles blondes qu'elle portait lors de nos réunions, puis soupira de l'effort. Charlotte Sederskjeld entra. Elle portait un trench coat bleu marine avec une large ceinture fortement serrée autour de sa taille fine. Quand elle retira son bonnet, ses épais cheveux châtains tombèrent en cascade autour de son visage. Elle était comme toujours belle et terriblement triste. Je m'approchai de la fenêtre, l'ouvris et sentis la brise printanière fraîche et douce me caresser le visage. Lorsque je me retournai, Yussi Persson était également là. « Docteur, » dit-il avec son accent posé du Norland. Nous nous serrâmes la main, puis il alla saluer Sibelle, tapota sa bedaine et dit quelque chose qui la fit rougir et pouffer. Il papotait à voix basse pendant que le reste du groupe arrivait, Lydia, Pierre et Marek légèrement en retard comme d'habitude. Je restai immobile, attendant qu'ils se sentent prêts. Tous ces individus avaient un dénominateur commun. Les sévices qu'ils avaient subis et les traumatismes dont ils souffraient. Ces sévices avaient causé de tels ravages dans leur psychisme que, pour survivre, ils les avaient refoulés. Aucun d'entre eux ne savait vraiment ce qui lui était arrivé. Ils étaient seulement conscients qu'une chose horrible dans leur passé gâchait leur vie. Je citais souvent William Faulkner. Le passé ne meurt jamais, il n'est même pas passé. J'entendais par là que chaque petite chose arrivée un jour à une personne la suit dans le présent. Chaque expérience influence chacun de nos choix et, dans le cas d'expérimentation traumatique, le passé prend, pour ainsi dire, le dessus sur le présent. J'hypnotisais généralement tout le groupe à la fois, puis j'en choisissais un ou deux avec lesquels j'allais plus loin. De cette façon, nous avions toujours accès à deux niveaux où nous pouvions discuter de ce qui se déroulait. Le niveau de la suggestion hypnotique et le niveau de la conscience. J'avais découvert quelque chose dans l'hypnose. Ce qui n'était d'abord qu'un soupçon s'est ensuite mué en un schéma de plus en plus distinct. La découverte demandait bien sûr à être confirmée. J'étais conscient que je fondais peut-être trop d'espoir sur ma thèse. La personne à l'origine du trauma clé ne se manifeste jamais sous sa véritable identité lors de l'hypnose profonde. Il est possible de localiser le trauma, d'observer le cours terrifiant des événements, mais la personne demeure cachée. Tout le monde était maintenant à sa place, à l'exception d'Eva Blow, ma nouvelle patiente, qui n'était pas encore arrivée. Un malaise familier agitait le groupe. Charlotte Sederskjeld s'asseyait systématiquement au fond. Elle avait enlevé son manteau et était, comme toujours, extrêmement élégante. Elle portait un sobre twin set gris, une jupe plissée bleu marine et d'épais collants foncés. Un large collier de perles scintillait autour de son cou svelte. Ses chaussures basses brillaient. Lorsque nos regards se croisèrent, elle me sourit avec courtoisie. Lorsque j'avais intégré Charlotte dans le groupe, elle avait déjà tenté de se suicider à 15 reprises. La dernière fois, elle s'était tiré une balle dans la tête avec le fusil de chasse de son conjoint, au milieu du salon de leur villa, à Dursholm. Le fusil avait glissé et elle avait perdu une oreille et une partie de la joue. On ne voyait plus rien. Elle avait subi quelques interventions esthétiques coûteuses et adopté une coiffure à la Jeanne d'Arc lisse et compacte, qui dissimulait sa prothèse d'oreille et son appareil auditif. Quand je voyais Charlotte poser la tête sur le côté et écouter poliment le récit des autres, je pâlissais d'inquiétude. Une femme qui avait vieilli en beauté, attirante, malgré cette terrible déchirure intérieure. J'étais conscient de mon incapacité à rester neutre face à l'abîme que je devinais en elle. « Tu es bien installée, Charlotte ?» demandai-je. Elle hocha la tête et répondit de sa voix douce dans une diction parfaite. « Tout va très très bien. Aujourd'hui, nous allons examiner la chambre intérieure de Charlotte, » expliquai-je. « Ma maison hantée, » ajouta-t-elle en souriant. « Exactement. » Marek m'adressa un sourire morne et impatient lorsque nos regards se croisèrent. Il avait été à la salle de gym toute la matinée. Ses muscles étaient gorgés de sang. Je regardai l'heure. Il était temps de commencer. On ne pouvait plus attendre Eva Blow. « Je propose qu'on s'y mette, » dis-je. Cybèle se leva rapidement et colla son chewing-gum dans un mouchoir en papier qu'elle jeta dans la poubelle. Elle me lança un regard timide. « Je suis prête, docteur. » La relaxation fut suivie par les étapes lourdes et chaudes de l'induction, la dissolution de la volonté et des limites. Lentement, je l'ai plongée dans une transe plus profonde, évoquant l'image d'un escalier en bois humide en bas duquel je les guidais. Cette énergie particulière se mit à circuler entre nous. Une chaleur tout à fait unique entre le groupe et moi. Ma voix fut d'abord vive et articulée, puis elle commença à faiblir. Yussi semblait agité. Il marmonnait, et son visage était de loin en loin secoué de rictus agressifs. Ma voix contrôlait les patients, et mes yeux voyaient leur corps s'enfoncer dans leur chaise, leur visage tomber et prendre cette expression primaire si caractéristique des sujets hypnotisés. Je passai derrière eux et touchai délicatement leurs épaules. Je les dirigeais un par un, tout du long, et comptais à rebours, marche après marche. Yussi dit quelque chose pour lui-même d'une voix sifflante. La bouche de Marek Semyovic était ouverte, un filet de salive s'en écoulait. Pierre semblait plus frêle et chétif que jamais. Les bras de Lydia pendaient, inanimés, le long de la chaise. « Continuez à descendre l'escalier, » dis-je tout bas. Je n'avais pas dit aux membres du conseil d'administration que l'hypnotiseur plongeait lui aussi dans une sorte de transe. À mes yeux, c'était une chose à la fois inévitable et positive. Je n'avais jamais compris pourquoi ma propre transe, qui avait toujours lieu parallèlement à l'hypnose des patients, se déroulait invariablement sous l'eau. Mais j'aimais l'image de l'eau. Elle était claire et confortable, et j'avais pris l'habitude de lire à travers elle les nuances du cours des événements. Tandis que je plongeais dans la mer, mes patients voyaient tout autre chose. Ils tombaient dans leurs souvenirs, dans leur passé, se retrouvaient dans la chambre de leur enfance, dans des endroits de leur jeunesse, dans le chalet d'été de leurs parents ou le garage de la fille d'à côté. Ils ignoraient que pour moi, ils se trouvaient en même temps dans les profondeurs de la mer, tombant lentement le long d'un gigantesque récif corallien, d'une plaine abyssale ou de la paroi rocailleuse d'un rift océanique. Dans mon esprit, nous plongions maintenant tous ensemble dans l'eau bouillonnante. Cette fois, je voulais essayer de les amener dans une hypnose assez profonde. Ma voix énumérait les chiffres, parlait de relaxation plaisante, tandis que l'eau bourdonnait dans mes oreilles. « J'aimerais que vous plongiez encore plus profondément, encore un peu, » dis-je. « Continuez de descendre, mais plus lentement maintenant, plus lentement. Vous allez bientôt vous arrêter en douceur, calmement. Plongez encore, encore un peu, et nous nous arrêtons ici. » Tout le groupe formait un demi-cercle devant moi sur un fond de mer sableux, vaste et plat, une étendue gigantesque. L'eau était claire et légèrement verte. Le sable sous nos pieds dessinait de petites vagues régulières. Des méduses roses scintillaient au-dessus de nous. Des poissons plats tourbillonnaient ici et là dans des nuages de sable, puis détalaient. « Nous sommes arrivés tout au fond, » dis-je. Ils ouvrirent les yeux et me regardèrent bien en face. « Charlotte, aujourd'hui c'est à toi de commencer, » poursuivis-je. « Que vois-tu ? Où te trouves-tu ? » Sa bouche remua silencieusement. « Il n'y a rien de dangereux ici, » dis-je. « Nous sommes toujours avec toi, derrière toi. »« Je sais, » dit-elle d'une voix monocorde. Ses yeux n'étaient ni ouverts ni fermés. Elle avait un regard de somnambule, vide et perdu dans le lointain. « Tu es devant la porte, » dis-je. « Tu veux entrer ?» Elle hocha la tête et ses cheveux ondulèrent au-dessus de sa tête au gré des courants marins. « Fais-le maintenant, » dis-je.
« Oui. »
« Qu'est-ce que tu vois ?»«
Je ne sais pas. »
« Tu es entré ?» demandai-je avec la sensation d'aller trop vite.
« Oui. »
« Mais tu ne vois rien ?»«
Si. »
« Est-ce que c'est quelque chose d'étrange ?»«
Je ne sais pas. Je ne crois pas. »
« Décris-le, » dis-je rapidement. Elle secoua la tête et de petites bulles d'oxygène s'échappèrent de ses cheveux et remontèrent en scintillant vers la surface. Je compris que je me trompais, que je n'étais pas à l'écoute, qu'au lieu de la guider, je la poussais. Pourtant, je ne pus m'empêcher de continuer. « Tu es revenu dans la maison de ton grand-père ?»«
Oui, »
répondit-elle à voix basse. « Tu as déjà passé la porte et tu continues à avancer. »«
Je ne veux pas. » »«
Fais juste un pas. »
« Peut-être pas maintenant, »
chuchota-t-elle. « Tu lèves la tête et tu regardes. »«
Je ne veux pas. »
Sa lèvre inférieure tremblait. « Tu vois quelque chose d'étrange ?» demandai-je. « Quelque chose qui ne devrait pas être là ?» Une ride creusa son front et je réalisai soudain qu'elle risquait de lâcher à tout moment et d'être propulsée hors de l'hypnose. Cela pouvait être dangereux, ce serait très mauvais pour elle. Elle risquait de se retrouver dans une dépression profonde si les choses allaient trop vite. De grandes bulles sortaient de sa bouche et formaient une chaîne luisante. Son visage scintillait. Des ombres bleu-vert dansaient sur son front. « Tu n'es pas obligée, Charlotte. Tu n'es pas obligée de regarder, » dis-je pour l'apaiser. « Tu peux ouvrir les portes vitrées et sortir dans le jardin si tu veux. » Son corps tremblait. Je compris qu'il était trop tard. « Tu es complètement calme maintenant, » chuchotai-je en tendant une main pour la caresser. Ses lèvres étaient translucides, ses yeux écarquillés. « Charlotte, nous allons remonter à la surface ensemble très doucement, » dis-je. Ses pieds firent voler un épais nuage de sable tandis qu'elle se propulsait vers la surface. « Attends, » dis-je faiblement. Marek me regardait et tentait de me crier quelque chose. « Nous sommes déjà en train de remonter, et je vais compter jusqu'à 10, » poursuivis-je pendant que nous retournions rapidement vers la surface. « Et quand j'arriverai à 10, vous ouvrirez les yeux, vous vous sentirez bien et... »